À voix nue. Cette semaine, Zoé Sfèze rencontre José Dayan. Ce soir, réinventer la télévision.
Bonsoir José Dayan.
Bonsoir Zoé.
Bonsoir et merci pour ce dernier épisode d'Avoix Nues.
On va s'ennuyer alors.
On va s'ennuyer, vous voulez dire qu'après on ne vous aura plus.
Voilà.
Pour ce dernier épisode d'Avoix Nues, José Dayan, j'aimerais qu'on parle de ce que vous faites aujourd'hui et de la manière dont vous regardez la télévision bouger, dont même vous, vous avez bougé avec la télévision. Aujourd'hui, vous...
Moi j'ai toujours bougé avec la télévision parce que j'ai fait Monte Cristo au moment où personne ne faisait Monte Cristo. J'ai amené des acteurs comme Gérard, Catherine, Isabelle et autres, Jeanne Moreau, Fanny Ardant, John Malkovich, Christian Clavier, etc., alors qu'ils n'y venaient pas. Ça, c'était vraiment un moment historique dans la télévision française. Et puis, c'est vrai que maintenant, par exemple, moi j'aime bien ne pas du tout être catalogué, si vous voulez. C'est-à-dire que j'adore passer des Rois Maudits à Monte-Cristo, à la Rivière Espérance, à cet amour-là. Je voulais faire les Rois Maudits, absolument. Je trouvais que c'était un sujet merveilleux. J'aime l'histoire. Je trouve que Maurice Druon est un auteur vraiment flamboyant. Et je voulais surtout, absolument, que Jeanne Moreau soit Mao d'Artois.
Mao d'Artois a été une Mao d'Artois...
extraordinaire.
Extraordinaire, inoubliable. En plus, il y avait... On en a parlé. Vous n'aimez pas regarder ce qui s'est fait avant ?
Non, ah non, c'est pas vrai. Parce qu'il se fait que j'avais vu Les Rois Maudits avec Jean Piat et avec Hélène Duc au moment où c'est sorti. Mmh. Et que j'avais trouvé ça formidable comme sujet. C'est pour ça que j'ai envie de le refaire. Mais je ne l'ai pas revu au moment où j'ai préparé Les Rois Maudits. Que j'ai fait évidemment à l'extrême opposé, parce que ça sert à rien de refaire la même chose. Et j'ai demandé en effet à Philippe Drouillet de faire le concept des décors, et c'était magnifique. On a tourné sur un plateau de 4000 mètres en Roumanie, c'était une aventure incroyable.
Ouais. Ça, c'était un pari très osé. Vous aviez déjà imprimé votre marque
sur
la vie historique.
J'ai dit que j'aimais les précipices.
Ça a été très, très commenté à l'époque, très critiqué parfois, encensé par d'autres.
Mais oui, mais ça c'est bien, on ne peut pas plaire à tout le monde. Si on plaît à tout le monde, c'est qu'on est tiède. Voilà. Vous savez, il y a des très grands films qui ont été absolument broyés. Par exemple, La Règle du jeu de Renoir, je reviens à ça. Et puis il y a eu des films épouvantables qui ont été absolument éblouissants de succès. Vous savez, moi, je ne sais pas. J'essaie de faire mon travail le plus honnêtement possible. J'essaie vraiment de m'impliquer au maximum. Mais je ne ferai jamais quelque chose pour plaire, en me disant « je vais plaire ». Si je pense que ce film doit être fait de cette manière-là, je le fais parce que je pense que c'est la réalité du sujet. Mais pas pour plaire.
Qu'est-ce qu'il fallait faire, justement ? Pourquoi est-ce que Les Rois Maudits, qui est quand même... Alors, c'est en gros ces épisodes fascinants, disons, de la fin... d'une France et d'une histoire de France et d'Angleterre, des Valois, toute la problématique avec la couronne d'Angleterre qui va aboutir sur la guerre de Cent Ans, etc. La question de l'affaire de la Tour de Nesle, c'est très historique. Pourquoi est-ce que vous aviez envie de le sortir complètement de son historicité ?
Mais je l'ai pas sorti. Je l'ai justement, je pense, traité comme il fallait le traiter, pas sur une scène avec trois panneaux. Je l'ai sorti comme c'était. Moi, j'ai beaucoup regardé, j'ai beaucoup lu, en revanche, sur le Moyen-Âge. Et à l'époque, le Moyen-Âge n'était pas du tout... Maintenant, quand on fait un film sur le Moyen-Âge, souvent, pour des raisons économiques, que sais-je, on va dans des décors naturels et on met 3-4 meubles. Mais ça n'a rien à voir. Le Moyen-Âge était flamboyant, il était très coloré.
Très coloré.
À la limite, c'était à la naissance du gothique. Donc je pense que Mes Rois Maudits correspondait vraiment, grosso modo, à ce qu'était le Moyen-Âge à cette époque-là, à la fin du Moyen-Âge, pratiquement.
Disruption d'esthétique, quoi.
Oui, bien sûr. Et puis j'avais envie de le traiter comme ça, voilà. C'est normal. Quand on s'engage dans une aventure aussi lourde, il faut qu'elle corresponde à quelque chose qu'on a envie de faire. Et vous voyez, par exemple, si vous prenez Les Rois Maudits et La Rivière Espérance, La Rivière Espérance, je l'ai traité vraiment de façon extrêmement classique, parce que je considérais que cette histoire de gabarier, etc., c'était dans des milieux à la fois un peu friqués, mais aussi très simples, et qu'il fallait absolument être traité presque de façon réaliste, enfin un peu romanesque, si vous voulez. Mais tout même assez réaliste. Les Rois Maudits, ça avait une envergure épique. Il fallait, selon moi, les faire comme je les ai fait. En effet, ça a été très critiqué et très applaudi. Et moi, je ne veux pas plaire à tout le monde. Je ne fais de charme à personne. Si j'ai un charme personnel, tant mieux. Mais je peux tenter de plaire aux gens qui me bouleversent, Mais je n'essaierai pas de plaire à tout le monde.
Ce personnage un peu violent, parfois. Vous savez que vous avez une image comme ça.
Mais je ne sais pas très bien. Vous savez, moi, je ne me regarde pas dans une glace à trois faces. Je sais que je suis assez authentique et assez en accord avec moi-même. Voilà. Quand j'ai fait la collection Vargas, parce que j'aime beaucoup l'univers de Fred Vargas, il y avait un personnage qui était le lieutenant Violette Rotencourt. Et alors là, pour le coup, moi qui fais tous mes castings, je voyais pas qui pouvait faire Rotencourt. Alors j'ai fait appel à un casting qui s'appelle toujours d'ailleurs Nicolas Ronqui, et à qui j'ai demandé de me présenter quelques actrices pour cette Violette. Et la première actrice qui est venue me voir, c'était Corinne Maziero. Et je lui ai dit oui... je vous connais pas, mais oui, pourquoi pas, mais vous êtes beaucoup trop mince, le personnage est énorme, etc. Bon, écoutez, on se verra une autre fois sûrement, au revoir. Et un quart d'heure après, Ronqui me rappelle en disant, mais elle est d'accord pour prendre 20 kilos. Je dis, mais attendez, on n'est pas en Amérique, on va pas lui faire prendre 20 kilos. Là, on fait un film, on sait pas s'il y a une suite, etc. Bon, encore une fois, c'est un métier qui est, comme je vous le disais, entièrement basé sur le désir. Et visiblement, elle avait le désir de faire cette route en cours. Je me suis dit, bon, ben alors, elle va grossir un petit peu. On va la mettre dans des espèces de doudounes énormes pour la rendre plus impressionnante physiquement. Et voilà, on a commencé comme ça. Et puis finalement, on a fait 5 Vargas, donc on a eu l'occasion de se connaître. Et puis à la suite des Vargas, elle a eu sa nomination au César pour ce film qu'elle a fait, là, dont j'ai oublié le titre, mais qui était dans une espèce de voiture. Où elle était,
Louise Wimmer,
Louise
incroyable.
Wimmer. Et elle-même me dit qu'en vérité, le metteur en scène qui lui a proposé Louise Wimmer, lui a proposé ce qu'il avait vu dans Vargas. Bon, vous voyez, tout ça, ça fait des liens. Je savais en tout cas qu'on se retrouverait. Alors je lui ai proposé quelques caméos, comme on dit, c'est-à-dire des personnages un peu courts, mais juste pour le plaisir de se retrouver. Et on l'a fait. Et puis, France 3, Anne Holmes m'a commandé une mini-série qui s'appelait Entre vent et marée, que j'ai fait avec Nicole Garcia et Muriel Robin. Et dans cette série, puisqu'on tournait à Belle-Île-en-Mer, il y avait une enquête, c'est un meurtre au début, c'était Patrick Bouchité qui était assassiné, et donc il fallait un gendarme et pas de flic. Et donc j'ai demandé à Elsa Marpeau, qui faisait l'adaptation, d'écrire un personnage de gendarme-femme pour retrouver Corinne Maziero. Elle la connaissait pas. J'ai donc expliqué un petit peu les caractéristiques de Corinne. Et voilà, elle a écrit ce personnage qu'elle a nommé Marlowe. Et simplement, quand on est arrivé à Belle-Île, c'était une espèce de tsunami, de tempête épouvantable. Donc, on a décidé, Corinne et moi, et le costumier, de lui mettre une chapka, de lui mettre une espèce de gros manteau. Et puis, d'avoir ce 4x4, parce qu'on pouvait pas rouler, il y avait de la boue partout, etc. Et curieusement, quand ce film est sorti, enfin ces deux films sont sortis, il se fait que moi, je suis un petit peu médiatique, donc les gens me reconnaissent dans la rue. Et je me suis fait arrêter, mais comme jamais, par des gens que je ne connaissais pas et qui me disaient « Qui est cette gendarme ?» C'est drôle que les gens m'arrêtent pour me demander « Qui est la gendarme ?» Il y avait Muriel Robin, il y avait Nicole Garcia, il y avait un rôle qui était assez beau mais qui était assez court, qui était, disons, un rôle secondaire. Et je me suis dit « Il y a quelque chose qui se passe autour de ce personnage. » J'ai donc proposé à Anne Holmes de démarrer une collection avec Corinne Maziero dans le rôle du capitaine Marlowe. C'était évidemment assez osé, parce que c'était totalement différent de ce qui se faisait. Il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'enfant, il n'y avait pas de mari, elle venait de nulle part, il n'y avait pas de hiérarchie, il y avait ce personnage particulier qui avait cette liberté de parole. Et j'ai dit, mais écoutez, l'ADN de Marlowe, ça va être bien sûr Marlowe, mais avec chaque fois face à elle, un très grand acteur ou une très grande actrice, puisque là, ça devient mon ADN. Et j'ai demandé à Gérard Depardieu de faire l'amitié de venir faire le pilote, et il est venu. Voilà. Mais dans ce pilote, il y avait évidemment Gérard, mais il y avait aussi Hélène Vincent, qui est une immense actrice, il y avait Jean Benguigui, enfin, il y avait plein de gens. Et on a fait ce pilote. Et puis, ça a pris. C'est-à-dire que d'un seul coup, ça a plus que pris. Au fur et à mesure des épisodes, Marlowe, c'est devenu comme un phénomène. C'est-à-dire qu'on fait pratiquement plus que le football. Enfin, on est en tête. Si on voit les audiences, par exemple, de cette année, il y a, je crois, les 100 premières audiences, il y a 92 audiences qui sont pour TF1 et 7 audiences pour France 3 avec Marlowe. C'est-à-dire qu'on est au niveau des plus gros scores, y compris dans les rediffusions, et alors vous dites les podcasts, mais aussi dans les replays. Et pareil, quand ça passe en Belgique ou en Suisse, c'est-à-dire qu'on arrive à avoir 30% de part de marché en Suisse et en Belgique, ce qui n'arrive pratiquement jamais. Donc il y a quelque chose, en effet, qui se passe autour du personnage qu'a créé Corinne Maziero et qui est ce fameux Capitaine Marlowe.
Que vous avez un peu co-créé à trois, parce que
mais
y a
oui,
vous,
on l'a
Elsa
co-créé,
on l'a co-créé, et il y a Corinne Maziero.
Oui, c'est ce qu'elle dit. Et, oui, enfin, on l'a fait ensemble, c'est vrai, comme un accord. D'ailleurs, elle m'appelle Herr Dr. Frankenstein, et donc elle est la créature de Frankenstein.
Corinne Maziero dit ça.
En effet, mais j'espère que la créature de Frankenstein ne viendra pas tuer Herr Dr. Mais je ne pense pas, voilà. On s'entend mais... très bien.
Ça, vous entendez très bien. Elle parle de vous très souvent. Vous faites la promotion de manière très conjointe. Ça, c'est aussi quelque chose de très nouveau qu'on a vu apparaître avec vous d'abord. Et de plus en plus, ces derniers temps, avec une autre série française qui a énormément de succès, y compris à l'étranger, le Bureau des légendes, Éric Rochant, qui vient vendre lui aussi sa série. C'est récent, ça, en France. Que le créateur, le showrunner, soit celui qui porte la série partout.
Oui, en fait... En ce qui me concerne, c'est pas tout à fait récent, parce que dès Monte Cristo, je me souviens, puisque j'avais amené Gérard, qu'on a eu ce succès, alors là, pour le coup, mondial, c'est vrai que on a commencé à parler de moi en disant, vous lisiez vous-même, il y a quelques soirs, la papesse, l'ogresse, machin, la pharaone. Donc, si vous voulez, il s'est passé cette espèce de phénomène autour de ma personnalité, et puis finalement... Voilà, ça a continué. Je me souviens que quand on avait fait Monte Cristo, il y avait des articles énormes en disant la télévision en 3D, de coin, de par Dieu d'Ayant. Donc vous voyez, dès le début, ça s'est passé comme ça. Voilà, ben, ça continue.
Pour revenir sur ce personnage du capitaine Marlowe, qui s'appelle donc Marlowe en référence à...
À Marlowe, j'espère. Chandler, bien sûr.
Raymond Chandler, que vous aimez.
Ouais, mais bien sûr que j'aime.
C'est effectivement, vous l'avez dit, un personnage... complètement inédit et qui va, disons, à contre-courant de tout ce que la télé préconisait. Parce que on a parlé beaucoup de télévision, on a parlé de la manière dont vous vous êtes affranchi de ces contraintes. Mais les contraintes en matière de télévision, de personnages, ce que vous faites apparaître à l'écran, des normes que doivent tenir ces personnages-là, elles ont toujours existé, elles étaient très fortes. Marlowe bouscule ça beaucoup.
Non, mais moi j'aime bien bousculer, je vous l'ai dit. Donc.
Et vous avez les moyens de le faire maintenant,
c'est ça. Écoutez, j'ai les moyens de le faire. Je pense que quand on fait 8 millions d'audience, on a les moyens de le faire. Voilà.
Alors, elle a des phrases très cultes. C'est un personnage très particulier. Vous l'avez dit, elle n'a pas de mari, elle n'a pas d'enfant. Elle est ménopausée. On l'apprend dans la saison 2. Elle dit qu'elle n'obéit pas aux règles puisqu'elle est ménopausée. Et elle a en même temps à la fois une gouaille, un accent ch'ti. Une absence totale, en tout cas, moi je trouve qu'elle a une grâce inouïe, mais de glamour.
Mais qu'elle cultive l'absence de glamour, parce qu'elle peut en avoir. Par exemple, moi je trouve que quand elle a fait l'épisode Marlowe avec sa sœur jumelle, qui elle était à l'opposé, puisque c'était une femme riche, etc., etc., elle avait un côté Angelica Houston. Elle pourrait l'avoir. Elle cultive ce côté nos charmes, parce que ça lui donne beaucoup de charme, évidemment. À la fois, elle cultive ce côté un petit peu genre, ah oui, moi je suis un peu con, je suis un bourrin, je comprends rien, mais avec une finesse et une culture absolue, parce qu'elle balance quelquefois des trucs très pointus au niveau de la culture. Donc elle est complexe.
Pirandello,
elle est ambiguë, elle est moderne, et puis elle est hors norme. Et c'est ça qui plaît.
Est-ce que ça aurait été possible, ça, il y a 20 ans? Ce personnage-là.
Mais pourquoi pas? J'en sais rien. Je pense qu'il y a 20 ans, il y avait beaucoup plus de liberté qu'aujourd'hui. Il y avait les nuls, il y avait des proches, il y avait Coluche, il y avait tout ça. Enfin, je sais pas, il y a 30 ans, je sais plus exactement, je sais plus la notion du temps. Mais je trouve qu'on était beaucoup plus libre il y a encore 30 ans que maintenant. Oui, bien sûr.
Y compris sur les personnages féminins. Faire porter une série par un personnage féminin de ce type-là,
eh ben, je ne sais pas. Encore une fois, je vous ai expliqué que moi, chez moi, il n'y avait pas de calcul. Je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup de façon instinctive. J'ai eu envie de faire ça avec elle, voilà. Et finalement, j'ai eu raison.
Est-ce que vous avez l'impression que ça change quelque chose? Parce que
j'ai l'impression que ça change quelque chose parce que je ne sais plus qui m'a dit, quand il y avait envoyé un scénario d'une nouvelle série, des nouveaux petits meurtres, que j'aime beaucoup d'ailleurs, je trouvais ça vachement bien avec Elodie Frank, etc. Je trouvais que c'était très amusant. Mais cette série-là est terminée et il rentre dans une troisième phase de série des petits meurtres d'Agatha Christie, dont le personnage principal serait, d'après ce qu'on m'a dit, une femme. Et on m'a dit que cette femme empruntait beaucoup de choses au style de Marlowe. Ah ben, on fait école, on verra bien.
José Dayan, On parlait de liberté. Depuis 2005, je crois, c'est ça? Vous avez votre propre boîte de production, Passion ouais. Film. Pourtant, au cours de tous ces entretiens, et vous l'avez dit, vous revendiquez un rapport très libre à la question de l'argent, qui ne vous intéresse pas beaucoup.
Mais ce n'est pas moi qui gère ma société.
Pourquoi vous avez créé cette société alors?
Ah, mais justement, pour être libre, pour pouvoir développer des sujets qui m'importaient, et que peut-être de... Imaginez par exemple Marlowe, je ne pense pas qu'un producteur se serait embarqué dessus. Donc, pour développer les sujets auxquels je crois, pour être libre d'acheter des droits de livres qui m'intéressent, pour pouvoir signer des contrats avec des acteurs qui m'intéressent, pour avoir cette liberté d'action, voilà. Et puis, parce qu'il m'est arrivé dans ma vie, souvent, de proposer à des producteurs des sujets, et puis m'apercevoir qu'ils achetaient les droits et qu'ils faisaient faire à quelqu'un d'autre. Ça m'a beaucoup déplu. Non pas qu'ils le fassent faire à quelqu'un d'autre, mais qu'ils ne me le disent pas. Alors que c'est moi qui leur avais proposé le sujet. Donc j'ai décidé, et finalement j'en remerciais ces producteurs félons, parce que ça m'a donné le désir de créer ma propre boîte pour être indépendante. On nous a proposé aussi de nous racheter. Vous savez, c'est la mode. Les gros groupes rachètent les boîtes. Surtout nous, on a un catalogue plutôt brillant pour l'instant. J'ai toujours refusé parce que j'aime le côté artisanal. Et je ne veux pas qu'on soit avec une équipe de comptables en me disant il faut faire tant d'heures de films, il faut faire tant de dividendes ou de bénéfices, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas ça, ce sont les films. Moi, j'ai produit Marlowe parce que j'y tenais et j'y croyais.
Qu'est-ce qui aurait fait peur? Qu'est-ce qui aurait pu faire peur?
La personnalité de Corinne, qui à l'époque était quasiment inconnue et qui était quand même un petit peu dérangeante, si on veut, pour certaines personnes qui ont le sens de l'ordre. Mais là, c'est vrai qu'Anne Holmes m'a suivi et je ne la remercierai jamais assez. Voilà.
Il y a une portée politique à cette série. Pas que vous la vouliez, vous, mais parce que Corinne Maziero la porte avec elle.
Oui, mais Corinne Maziero, elle est politisée, elle le crie haut et fort, elle le revendique, elle manifeste, elle va dans les manifs, elle s'exprime politiquement. Moi, je ne suis pas du tout politisée comme elle, je ne suis pas souvent d'accord avec ses choix, et je le lui dis d'ailleurs, et puis voilà. Mais à la fin, moi, je suis quelqu'un qui respecte totalement l'autre. Et on est en démocratie, donc les gens peuvent, à partir du moment où elle est sincère et où elle a ancré ce personnage comme ça un peu révolutionnaire, eh bien, je la filme, voilà. Et je ne suis pas d'accord avec tout. Et je le lui dis, et je vous le dis, je l'admire et j'aime admirer.
J'ai quand même envie de vous poser la question de ce que vous avez vu, senti, ressenti, de ce qui se passe depuis 3 ans avec ce qu'on a appelé l'affaire Weinstein, puis ensuite ouais. Le mouvement MeToo, qui a été... particulièrement, c'est parti du milieu du cinéma et de la...
Oui, mais alors attendez-moi, honnêtement, je pense que, hélas, ça n'est pas une particularité du milieu du cinéma. Je pense qu'il y a du harcèlement dans les bureaux, je pense qu'il y a du harcèlement dans la politique, je pense qu'il y a du harcèlement dans le milieu médical, je pense que le harcèlement, hélas, existe partout, y compris dans les milieux ouvriers, y compris chez les milliardaires. Le harcèlement, hélas, le viol, hélas, fait partie de la nature humaine. Alors, pourquoi est-ce que c'est parti du milieu du cinéma? Simplement parce qu'il est plus emblématique, parce que vous, si vous expliquez que Monsieur Weinstein est en train de vouloir violer, je dis n'importe quoi, Nicole Kidman, je ne dis pas qu'il l'a voulu la violer, je cite. Bon, eh bien, évidemment, ça fait les gros titres. Maintenant, si vous dites que Monsieur Trucmuche, médecin à Angoulême, a voulu violer Mademoiselle Zoé, je sais pas quoi, ben on s'en fout, on sait pas qui elles sont, ça fera un entrefilet. D'un seul coup, ça devient scandaleux parce que les personnes dont on parle sont dans la lumière.
En l'occurrence, c'est parce que cette affaire est sortie que finalement, ça a permis d'aller interroger ce qui se passait dans d'autres milieux.
Mais bien sûr, mais enfin, alors là, c'était vraiment une hypocrisie totale parce que je pense qu'on a toujours su qu'il y avait du harcèlement partout.
Mais la manière dont, par exemple, ce milieu-là, on parlait du système du CNC, on parlait en France d'un système qui est finalement très centralisé. Finalement, les décisions reviennent souvent à des personnes qui sont un peu toujours les mêmes, y compris dans le cinéma dit d'auteur. Il y a eu des assises récemment avec des réflexions, des propositions effectivement, d'essayer de mettre plus de femmes à certains endroits, dans certains comités, d'avoir des référents sur un plateau si jamais il se passe quelque chose. Et vous l'avez dit, il y a la question du désir qui est très très présente quand même dans ce milieu et dans votre profession.
Oui, ben, ça n'a rien à voir. C'est pas parce qu'on a, le désir de filmer un acteur ou une actrice, c'est parce qu'on a le désir d'aller dans une aventure en s'engageant artistiquement qu'il y a harcèlement. Ça n'a rien à voir.
Vous en avez parlé avec des acteurs et des actrices autour de vous ?
J'en ai parlé pas mal avec Isabelle Adjani, parce que vous voyez, elle est en première ligne pour Adèle Haenel, etc. Mais elle a raison. Il y a des attitudes qui sont insupportables, des attitudes machistes, des attitudes de pouvoir, bien évidemment. Mais encore une fois, moi je pense que c'est, hélas, pas réservé à notre profession.
Bien sûr que non.
Voilà.
Mais comment est-ce qu'on peut s'en affranchir dans votre profession ? On peut se poser cette question dans toutes les professions.
Mais on peut s'en affranchir en disant « allez vous faire foutre ».
Marlowe, vous le faites donc pour France 3, vous avez sa société de production et vous dites que vous faites ces audiences incroyables. C'est vrai que vous faites ces audiences incroyables. Pourtant, c'est des audiences qui sont différentes des audiences que vous faisiez avec Monte Cristo parce que la manière dont les gens regardent la télévision a complètement changé.
Mais c'est-à-dire que quand j'ai fait Monte Cristo et qu'on est passé de 9 millions à 15 millions, c'était pharaonique. Mais à l'époque, il n'y avait pas du tout la TNT, il y avait très peu de chaînes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, faire 8 millions aujourd'hui, c'est comme faire 20 millions à l'époque de Monte Cristo. Voilà, c'est un peu particulier, quoi. Ce qui nous arrive, c'est même de l'ordre du miracle.
De l'ordre du miracle, comment est-ce que vous voyez les choses changer dans les 2-3 années qui viennent ? Il va y avoir cette plateforme de Netflix à la française, comme on le dit, ah ouais. Salto, qui a été voulu par le ministère de la Culture, la volonté, disons, d'avoir un lieu où on puisse regrouper toutes les fictions françaises qui se font de qualité. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben, je pense que c'est bien.
En tant que productrice ?
Ben, moi, je pense que c'est bien. Je pense que plus il y a de fictions qui sont mises à disposition, c'est très bien. Moi, je ne crains pas du tout la concurrence.
Et vous pourriez, par exemple, revendre les droits de diffusion de replay à Netflix, par exemple, de Marlowe.
Mais rien ne vous oblige. Marlowe a été acheté par Netflix, à un moment donné. Mais la série, par exemple, que je vais faire avec Isabelle, la série contemporaine, on va sûrement la faire en coproduction avec Netflix, oui, bien sûr.
Quelle série vous regardez aujourd'hui ?
Bah, par exemple, La Case de Papel, que j'ai regardé un peu, pas tout. Alors, House of Cards, qui est une série que moi, je trouve extraordinaire. Et je trouve dommage qu'il n'y ait plus Kevin Spacey, parce que c'est un acteur incroyable. J'ai regardé aussi ce film incroyable qui se passait en Argentine, dont j'ai oublié le titre, en noir et blanc.
Au Mexique, c'était Roma de Alfonso Cuarón.
Voilà, Roma. Je trouvais ça merveilleux. D'ailleurs, c'était Isabelle Adjani qui m'avait suggéré de le voir.
Ça a été un grand coup de génie de mettre de la part de Netflix, de dire, voilà, nous, on peut faire du cinéma d'auteur.
Mais bien sûr, mais c'est ce qu'ils font, d'ailleurs. Et ils ont raison. Alors tout ça c'est compliqué, après ça va à Cannes, ça va pas à Cannes, etc. Pour dire la vérité, je m'en fous. Moi, ce qui m'importe c'est les films, le reste...
Autrement dit, le système de financement à la française, l'idée des espaces de création tels qu'ils ont été, on va dire, sanctuarisés en France.
Ouais. C'est bien ça, parce que le système du CNC est formidable, avec les recettes engrangées par les films américains qui font d'immenses... C'est extraordinaire que ces films américains qui font d'immenses entrées, finalement, génèrent des fonds de soutien. Mais c'est très très bien, même pour des films d'arrêt d'essai, qui eux vont faire 2 entrées, mais pourquoi pas ? C'est très bien, pourquoi pas ? Mais à la fois, on n'est pas obligé non plus de faire vivre des sociétés de production qui font un film ou 2 films par an dont ils savent pertinemment qu'il n'y aura pas d'entrée, juste pour qu'il y ait les frais généraux payés. Je pense que ça devrait être un tout petit peu plus, curieusement, sélectif. On devrait peut-être regarder un peu de plus près les projets.
Qu'est-ce qui vous intéresse aujourd'hui quand vous regardez des séries ou des films ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous voyez aujourd'hui que vous n'auriez pas pu voir peut-être il y a 20 ans ?
Mais sûrement, enfin, je pense, beaucoup de séries américaines, bien sûr. Certaines séries anglaises aussi, des séries des pays du Nord, nordiques, quoi. Il y a certaines séries françaises que j'aime beaucoup. D'ailleurs, vous parliez de la série de Rochamps, Le Bureau des légendes, je trouvais ça formidable, extraordinaire. D'ailleurs, j'ai jamais trouvé d'un Roussin aussi bien que dans Le Bureau des légendes. Engrenage aussi, c'était pas mal. Braco, enfin, il y a beaucoup de séries faites par Canal.
Baron Noir, où je sais que vous avez repéré Cadmérat, d'ailleurs. Vous aviez aimé Baron Noir.
Baron Noir, j'ai trouvé très très bien, mais j'ai surtout trouvé Cadmérat merveilleux dedans. Oui.
C'est intéressant parce que Le Bureau des légendes, comme Capitaine Marlowe, sont des séries qui jouent la carte, justement, tout à fait française. C'est-à-dire qu'elles prennent le contrepoint total de la série américaine d'espionnage, de la série américaine de flics.
Oui, mais attendez, il y a Encore une fois, je vous ai dit que je préférais les originaux aux copies. On fera jamais les séries américaines aussi bien qu'elles sont faites. Donc c'est pas la peine de les faire. On n'a pas les mêmes lieux, on n'a pas les mêmes décors, on n'a pas les mêmes budgets, on n'a pas le même univers visuel. La beauté de New York, le mystère de cette ville, on ne l'a pas. Bon, alors il vaut mieux faire des trucs qui correspondent à notre sensibilité.
Vous me dites que vous vous envisagez de travailler avec Netflix. Vous, José Dayan, vous avez été à la tête de grandes coproductions. On en a parlé, Monte Cristo, Les Misérables, il y a des Italiens, il y a des Suisses, il y a des Allemands. Vous n'avez jamais été tenté, on vous a jamais proposé, de travailler à l'étranger?
Non, non. J'ai fait des films en Italie, qui étaient produits entièrement par l'Italie. J'ai fait des films en Allemagne. Mais je veux toujours être au cœur du projet dès le début. Et je n'ai pas envie, moi, d'aller, qu'on m'appelle et qu'on me dise, venez faire, par exemple, telle série à New York, où tout est décidé par le producteur. Ça m'intéresse pas. Moi, j'aime être à l'origine des projets. Mais bon.
Comment est-ce que vous voyez peut-être la télé, et surtout, ce que vous, vous avez tourné dans 10 ans? Où est-ce qu'on le verra? Comment est-ce qu'on le verra?
Je sais pas. Ça m'est indifférent, puisque je vous dis, je revois pas mes films. Moi, ce qui m'importe, c'est ce que j'aurais envie de faire dans 10 ans. Voilà.
Qu'est-ce que vous auriez envie de faire en 10 ans?
Ben, j'en sais rien. Je suis pas dans 10 ans. Voilà. Je vous ai expliqué que moi, j'aimais, quand j'avais une idée, un désir, encore une fois, qu'il soit exaucé assez rapidement, dans un laps de temps rapide, pour qu'il y ait toujours cette espèce d'intensité de, d'avoir encore envie de se battre pour un projet. Moi, si aujourd'hui, je vous disais, j'ai envie de faire ça dans 10 ans, ce serait pas moi. Voilà.
La question de la postérité, elle vous intéresse ou pas? C'est-à-dire, non. Où est-ce qu'on verra vos séries?
Je m'en fous.
Pourtant, vous dites que vous intéressez au fait que le public voit vos films, pas vous.
Ah, mais évidemment. Mais si je fais un film aujourd'hui et si personne ne le voit, c'est quand même assez problématique. Maintenant, après moi le déluge. Voilà. J'espère qu'il y aura quelques films qui resteront. Moi, je vois par exemple que Monte Cristo, 20 ans après, repasse partout, etc. Bon, ça me fait assez plaisir. Mais... c'est pas ma préoccupation principale. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vais faire demain. Ou après-demain.
Est-ce que les autres vont faire demain?
Ça m'est égal. Je m'en fous. Non. Sauf s'il y a un acteur ou une actrice que j'adore, un metteur en scène que j'adore, et je me dise, ah là là, j'ai assez envie de voir le prochain film de Scorsese, je vous dis n'importe quoi. Bon. Parce que ça va m'intéresser. Peut-être. Ou de ce metteur en scène que j'aime beaucoup, dont j'ai oublié le nom encore une fois, qui avait fait Little Odessa, James Gray.
James bon. Gray.
Par exemple, James Gray, c'est un metteur en scène que j'aime beaucoup. Eh bien, s'il y a un film de James Gray qui s'annonce, j'aurais envie d'aller le voir, vous voyez. Mais voilà, ça s'arrête là. Mon horizon est assez fragmenté. Aujourd'hui, demain, et alors, quelle aventure après-demain.
Merci José Dayan.
Merci Zoé.
Fin de cette rencontre de Zoé Sfez avec José Dayan. À voix nue, réalisation Laurent Polleret, prise de son Arthur Dumont, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.